Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. C'est une rencontre suffisamment rare pour être soulignée. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s'est rendu dimanche à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Il a été reçu par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les discussions ont porté sur les questions économiques et sécuritaires et les deux hommes ont convenu de poursuivre le dialogue. Mais dans la foulée, une source proche du gouvernement israélien s'est empressée d'affirmer qu'il s'agissait d'une visite de routine et qu'il n'était pas question de relancer le processus de paix. Au point mort depuis 7 ans, alors quel intérêt le gouvernement israélien a-t-il à renouer le dialogue avec l'autorité palestinienne? Ces discussions ne risquent-elles pas d'affaiblir son président, le palestinien Mahmoud Abbas, notamment face au mouvement islamiste Hamas, et quelles peuvent être les conséquences sur le terrain? C'est le décryptage du jour, soyez les bienvenus. Notre invité ce soir est Belir Nabli, chercheur associé au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po et cofondateur du site d'analyse chronique.fr. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Alors peut-être un premier commentaire pour commencer, Belir Nabli, d'abord sur la communication des autorités israéliennes autour de cette rencontre. Côté pouvoir, on s'est empressé de dire qu'il n'était pas question donc de relancer le processus de paix. Il n'y a pas eu non plus de photos ni de discours officiels. La rencontre a même été tenue secrète jusqu'à la dernière minute. Comment est-ce que vous analysez tous ces éléments?
Eh bien, d'abord parce qu'effectivement, il n'existe pas de volonté côté israélien de relancer un quelconque processus de paix et que par conséquent, il faut que cette position soit la plus claire possible, notamment en minorant ce type d'événement, à savoir la rencontre entre le président de l'autorité palestinienne et le ministre de la Défense du gouvernement israélien. Donc, les choses reste très clair sur ce plan-là. Il n'y a pas là l'enclenchement, le déclenchement d'un nouveau processus diplomatique qui pourrait ressembler de près ou de loin au processus d'Oslo.
Tout de même, le ministre de la Défense, Benny Gantz et Mahmoud Abbas ont annoncé qu'ils allaient poursuivre leur dialogue. Est-ce que c'est une façon pour la coalition au pouvoir, la nouvelle coalition au pouvoir en Israël, de montrer qu'elle n'est pas éphémère ou peut-être de montrer que la page Netanyahou est définitivement tournée?
Je pense qu'il s'agit d'abord et avant tout de signifier, tant du côté israélien que du côté de l'autorité palestinienne, que la partie exclue de ce jeu-là, c'est le Hamas. Il s'agit là, finalement, à travers le Hamas, d'une cible commune, une forme de source de rapprochement entre l'autorité palestinienne et Israël. Les deux parties ont pour objectif de neutraliser au mieux, finalement, le parti islamiste palestinien, qui est ressorti, revigoré, renforcé par la dernière... le dernier pic de tension qui a basculé dans une confrontation militaire directe entre l'armée israélienne et précisément le Hamas à Gaza.
Et en mai dernier, oui.
Effectivement, il y a quelques mois à peine, donc une nouvelle séquence conflictuelle, mais qui a eu comme répercussion politique un renforcement de l'aura et de la légitimité du Hamas d'un côté et un affaiblissement supplémentaire, finalement, de la crédibilité de Mahmoud Abbas.
Ça faisait combien de temps, Belir Nabli, qu'on n'avait pas assisté à des discussions comme ça entre le président de l'autorité palestinienne, donc Mahmoud Abbas, et un haut responsable israélien comme Benny Gantz?
Grosso modo, on peut remonter à 2014, et pour une raison très simple, c'est que, en vérité, cette absence de dialogue à ce niveau-là, qui est un niveau donc politique, s'explique par l'agonie du processus de paix et l'idée suivant laquelle, finalement, ce processus est mort. Et que cette mort-là devait se traduire, du point de vue des Palestiniens, notamment à cesser de nouer finalement une relation diplomatique officielle, publique, qui jouerait un peu le jeu de la comédie du processus de paix. Il faut avouer ici que effectivement, ce processus d'Oslo, finalement, s'est terminé sur l'image inverse de ce à quoi il devait aboutir, à savoir non pas forcément la création d'un État palestinien, mais au moins la fin du processus de colonisation des territoires palestiniens. Et ce qui a marqué finalement l'exercice du pouvoir incarné par Benjamin Netanyahou, c'est précisément la continuité et l'accélération d'un processus de colonisation que le processus d'Oslo devait faire cesser. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est finalement que cette rencontre entre président de l'autorité palestinienne et un représentant du gouvernement israélien vient malgré tout ponctuer la fin de cette longue séquence politique israélienne qui était incarnée par un homme et qui était polarisée donc autour d'un homme, la figure de Benjamin Netanyahou. C'est à la fois un événement politique très important et en même temps, ou paradoxalement, du point de vue diplomatique, du point de vue des relations internationales, du point de vue de la conception des relations tant avec les Palestiniens qu'avec le grand ennemi iranien, finalement, cette fin, cette rupture, en réalité, correspond à une continuité, puisque le nouveau gouvernement, dirigé par M. Bennett, n'a nulle intention de rompre ni avec le processus de colonisation, ni avec un quelconque processus de reconnaissance d'un État palestinien. La priorité stratégique du côté israélien demeure l'Iran qui incarne cet ennemi à la fois stratégique et cette menace incarnée comme telle du côté de Tel Aviv. Donc une continuité derrière la rupture historique.
Alors justement, pour rebondir sur votre propos, je voudrais qu'on écoute un témoignage qui illustre parfaitement ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est un témoignage qui a été recueilli en juillet par RFI dans le village d'Atouani, c'est dans les collines au sud de la ville d'Hébron en Cisjordanie. La personne qui parle s'appelle Sami, c'est un jeune berger palestinien de 23 ans. Il nous parle de la violence des colons juifs qu'il subit au quotidien.
En tant que berger, on est attaqué presque tous les jours par les colons. Bien sûr, ces agressions se passent sous les yeux des soldats israéliens, mais eux, ils ne sont là que pour protéger les colons. Quand les colons brûlent nos maisons, coupent nos arbres, l'armée n'intervient pas. L'objectif de l'occupation est de nous chasser d'ici et d'annexer nos terres.
Belir Nabli, quand on écoute ce témoignage et sachant que vous le disiez à l'instant, côté israélien, il n'y a absolument aucune intention de relancer le processus de paix, on peut légitimement s'interroger sur les promesses économiques qui ont été faites dimanche soir par Benny Gantz. Le ministre israélien de la Défense a notamment dit à Mahmoud Abbas qu'Israël cherchait à prendre des mesures pour renforcer l'économie de l'autorité palestinienne. Quel est l'intérêt pour Israël d'apporter ce soutien économique ?
C'est le genre de décision qui relève d'une forme de réel politique. Dans la mesure où l'adversaire, l'ennemi politique du point de vue israélien est incarné par le Hamas, le fait de renforcer l'autorité palestinienne est une manière pour Israël de neutraliser au mieux le Hamas. Et donc il s'agit là, à travers cette aide, non pas d'aider d'abord et avant tout les Palestiniens, mais de tenter de renforcer l'autorité palestinienne qui est confrontée non seulement à un bilan négatif, à une impuissance face à la colonisation rampante, mais qui est également confrontée à une réalité économique et sociale extrêmement grave qui frappe alors non seulement les Gazaouis, mais dont l'autorité palestinienne n'a pas la charge, la responsabilité au sens politique et administratif, mais la Cisjordanie, du moins les territoires administrés par l'autorité palestinienne, où les habitants sont également frappés par une grave crise économique et sociale qui nourrit un peu plus le désaveu et le rejet vis-à-vis de Mahmoud Abbas. Donc il s'agit pour les Israéliens d'essayer de renforcer un peu cette autorité palestinienne en manque d'autorité politique, précisément, à travers ce type d'aide économique.
Et quel était l'intérêt alors pour Mahmoud Abbas de participer à cette rencontre, de recevoir le ministre israélien de la Défense dans son palais présidentiel à lui ?
Alors, lui-même n'a pas fait véritablement une communication tonitruante autour de l'événement, parce qu'effectivement, on est à peine quelques mois après la confrontation militarisée entre le Hamas et l'armée israélienne, sachant que les Palestiniens ont fait bloc derrière le Hamas, considérant qu'il s'agissait d'une énième agression militaire israélienne. D'ailleurs, on peut souligner ici un événement extrêmement important, à savoir que cette mobilisation de la population palestinienne a contrasté durant cette séquence avec le silence assourdissant de l'autorité palestinienne. À aucun moment, Mahmoud Abbas n'a pris la parole officiellement, publiquement, pour venir... non pas forcément soutenir le Hamas, certainement pas, mais au moins la population de Gaza. Et là, pour le coup, c'est un événement majeur pour signifier à la fois une espèce de césure, de rupture, mais qui existe moins au cœur du peuple palestinien que dans l'esprit d'une forme d'élite palestinienne, du côté de l'autorité palestinienne, qui a intégré la césure entre Gaza et la Cisjordanie.
Nabil Nabli, le Hamas justement a dénoncé dès hier cette rencontre entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas. Le Hamas estime qu'elle va aggraver les divisions entre les Palestiniens. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que ça va effectivement accroître les tensions interpalestiniennes sur le terrain?
Je pense qu'il faut relativiser cet événement. Il est important pour l'autorité palestinienne qui avait besoin d'une forme de source d'oxygène pour essayer finalement de gagner en marge de manœuvre sur le plan économique et social. Mais sur le plan politique, cet événement ne fait que conforter un diagnostic déjà bien établi, à savoir que l'autorité palestinienne incarnée par Mahmoud Abbas finalement coopère, pour ne pas dire collabore tout simplement avec les gouvernements israéliens successifs, du moins sur le plan sécuritaire et maintenant sur le plan économique et social. Mais parce que l'autorité palestinienne est dans une situation de dépendance, hein, c'est pas qu'un acte de collaboration au sens fort du terme, c'est pas de la collaboration idéologique, mais il y a une situation de dépendance qui fait que, concrètement, par exemple, l'autorité palestinienne a droit à des taxes, mais qui sont récoltées par les autorités israéliennes. Celles-ci jouant finalement une forme de jeu de chantage avec ces taxes, puisque elle peut très bien décider de manière arbitraire, mais en tout cas unilatérale, de ne pas reverser ces taxes ou de le faire. Et ce qui est intéressant avec cette dernière séquence, c'est que précisément cet accord, ou du moins cette rencontre, a permis notamment d'annoncer finalement le versement d'une partie de ces taxes qui étaient retenues par les autorités israéliennes. Voilà, il y a une situation, un rapport de force tellement défavorable aux Palestiniens que d'une certaine manière, l'autorité palestinienne, dans sa faiblesse et dans sa manière de se soumettre au gouvernement israélien, ne fait que traduire symboliquement et politiquement ce rapport de force-là.
Oui, on comprend bien que Mahmoud Abbas est aujourd'hui extrêmement fragilisé. Il y a eu notamment cette série de manifestations ces derniers mois pour réclamer sa démission, et notamment après le décès du militant palestinien Nizar Banat, qui dénonçait, lui, la corruption des autorités palestiniennes. Pour rappel, il a été battu à mort après avoir été arrêté justement par l'autorité palestinienne. Écoutez ce qu'en dit ce manifestant anti-Abbas à Ramallah.
L'assassinat de Nizar Banat, c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a une corruption énorme dans le gouvernement. Ils sont exclus, ils ignorent ce qu'est la légitimité. Nous, on veut dissoudre le gouvernement et on veut des élections pour que le peuple puisse choisir à nouveau ses dirigeants qui les représentent. Autrement, cela n'a aucune valeur.
Belir Nabli, la position de Mahmoud Abbas aujourd'hui est-elle tenable ? Parce qu'il a quand même la pression de la rue, notamment d'une partie de la jeunesse palestinienne. Il y a eu son annonce de reporter à durée indéterminée les élections qui étaient prévues. C'était censé être le seul scrutin national que beaucoup de jeunes auraient pu connaître depuis leur naissance. Aujourd'hui, est-ce que sa position est tenable ?
En fait, son mandat a expiré déjà depuis 2009. Ça fait donc plus de 10 ans que d'une certaine manière, il n'a pas de légitimité légale. Mais il pouvait compter jusqu'à une certaine époque sur une légitimité populaire, du moins au niveau de la Cisjordanie, notamment parce qu'il avait réussi à mener une stratégie diplomatique assez intéressante qui consistait d'abord à rejeter toute forme de violence dans son rapport de force avec Israël et à tout investir dans, finalement, l'instrument diplomatique, y compris en essayant de saisir la Cour pénale internationale lorsque, finalement, Israël violait le droit de la guerre ou le droit humanitaire. Donc un arsenal ou une démarche diplomatique qui pouvait aboutir à quelques résultats et qui a renforcé la légitimité de Mahmoud Abbas dans un premier temps. Puis, dans la mesure où il a été incapable, premièrement, de récolter un quelconque résultat sur le terrain, que deuxièmement, parallèlement à son exercice du pouvoir, la condition des Palestiniens n'a cessé de se dégrader, et qu'enfin, il a été incapable également, finalement, de renouer avec la démocratie, parce que finalement, la démocratie dans cette région reste quelque chose de relativement rare, et que les Palestiniens ont expérimenté quelque chose d'intéressant pour allier à la fois libération nationale et démocratisation d'une société. Et Mahmoud Abbas, aujourd'hui, incarne finalement la caricature de l'autoritarisme et de l'arbitraire. Et ce à quoi on assiste, c'est finalement une double critique, un double discours critique des Palestiniens, tant à l'égard du système de répression et d'oppression qu'ils subissent de la part des Israéliens, mais également désormais un discours assez clair à l'encontre de l'autorité palestinienne. On pourrait naturellement ajouter également les dérives du Hamas à Gaza qui cède trop facilement également à l'arbitraire et à l'oppression lorsqu'on conteste son pouvoir. Donc ça devient de plus en plus complexe, mais il faut écouter finalement les Palestiniens dans la mesure où leur discours de plus en plus critique et complexe fait d'eux des citoyens tout à fait modernes dans la mesure où ils ne cèdent pas à une forme de manichéisme. Ils arrivent à faire front, à faire bloc lorsqu'il s'agit de faire nation, mais ils savent faire preuve d'un esprit critique vis-à-vis de leurs propres représentants lorsqu'ils considèrent qu'ils sont corrompus, impuissants et inefficaces.
Alors on va justement réécouter l'annonce du report des élections par Mahmoud Abbas. Alors la raison avancée, c'était que la tenue du scrutin n'était pas garantie à Jérusalem-Est, donc la partie de la ville qui est annexée par Israël. C'était le 30 avril dernier, écoutez-le.
Jérusalem sera toujours la première raison, la seconde, la troisième, la dixième, la millième. C'est la capitale de la Palestine. Mais si Israël se décide dans une semaine et qu'ils sont d'accord pour que le vote ait lieu à Jérusalem, on fait les élections dans une semaine.
Le report de ce scrutin, c'est quelque chose que le Hamas instrumentalise aujourd'hui ?
Alors, c'est pas la première fois, en fait, qu'on a assisté à cette séquence qui a consisté à, premièrement, forme de célébration d'un processus de réconciliation nationale entre le Fatah du président Abbas et du Hamas, et avec l'annonce d'élections prochaines, et, in fine, l'annulation de ces élections. On a dû connaître deux ou trois séquences de la même nature avec, comme résultat, une frustration généralisée. Donc, la responsabilité, pour être honnête, ne pèse pas que sur le Hamas. La première des responsabilités, elle pèse sur le président Abbas qui prend la décision d'annuler une décision qu'il a prise au terme de négociations et qui en plus, devait donner vie à la démocratie palestinienne. Non, ce qui est intéressant là, c'est vraiment la demande de démocratie du côté palestinien. Il ne demande pas qu'un État, il ne demande pas qu'une libération nationale, il demande également une démocratie, donc un État démocratique. Ça donne un relief extrêmement intéressant à ce qui se passe aujourd'hui à la Palestine, malgré une forme de marginalisation de cette question à l'échelle des relations internationales contemporaines.
Merci beaucoup, Belir Nablié. Pour l'instant, aucune date de scrutin n'est fixée. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Décryptage. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au CERI Sciences Po et cofondateur du site d'analyse chronique.fr. Merci également à Hélène Avril à la réalisation technique et Éléonore Krenik à la préparation de cette émission. On se retrouve demain à la même heure. Et dans quelques secondes, le débat du jour, mercato du foot, les règles ont-elles disparu ? Ça sera en compagnie de Romain Ouzoui. Très belle soirée sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paz.